Écoute, Ben, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale.
Antoine Robitaille.
Il y en a un qui m'a écrit hier, il m'a dit que j'étais nazi.
Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'a.
Philippe-Vincent Foisy.
Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi.
La rencontre.
Offenser qu'on ose poser une question et remettre en question
ces décisions. Écoute, de... j'en revenais
plus. Rien dire, mais on peut plus rien dire.
On peut plus rien dire. Surtout dans la rencontre.
Rencontre Robitaille Foisy.
Bonjour à vous deux.
Allô. Oui, bonjour.
Des nouvelles de votre ministre favori, Antoine.
Oui, oui. Ben, il semble qu'il n'y ait
surtout,
pas de...
c'est devenu l'ami de Philippe-Vincent en passant. Hein?
Ah ben, oui, oui.
Il est toujours à son émission.
Toujours. Il est comme venu deux fois depuis le début de l'année.
Oui, oui. Je ne sais pas ce que tu lui as fait. Je ne sais pas si tu l'as invité à aller pêcher ou à aller chasser.
Non, mais j'aimerais ça me déguiser en faiseux. Comment on appelle ça, les chasseurs de faiseux?
Ben, on peut entendre. on écoute tout de suite François Legault à l'Assemblée nationale tout à l'heure.
On se rappelle que c'est le Parti libéral qui avait déposé une plainte contre le ministre de l'Économie pour à la commissaire à l'éthique. Le ministre de l'Économie a été complètement blanchi. Il aura le droit de continuer à aller à la chasse aux faisans. Par contre, on aimerait avoir des photos de lui avec son habit.
C'est drôle, là, comme ça, mais...
C'est un comique.
Oui, c'est ça, il est vraiment comique des fois. Mais quand même, ça soulève toutes sortes de questions, cette affaire-là, parce que la commissaire à l'éthique a dit, ben, il a reçu l'invitation sur son courriel personnel. Donc, c'était sa vie privée. Et on n'a pas à se questionner sur le reste. Oui, c'est vrai, souligne-t-elle aussi, que c'est des personnes qui peuvent recevoir des subventions ou qui en ont reçu.
Mm-hmm.
Mais là, je me dis, comme il y a un reporter tantôt qui s'indignait, qui dit, coudonc, on est revenu aux fleurs de Nathalie Normando. Est-ce que finalement des billets pour aller voir Céline, on se souvient?
Envoyé par correct? Lino Zambito.
Est-ce que c'est correct?
Ben oui.
Tu sais, et monsieur Fitzgibbon est ravi. Il est ravi, mais ça l'énerve de se faire poser des questions. On peut écouter, il vient de répondre dans le couloir. J'ai réussi à sortir un extrait.
Ça va être un conflit d'intérêts.
On va dire bien. Il y a une ligne, la vie personnelle, professionnelle. Mais c'est ma vie personnelle, ça ne regarde pas.
C'est juste parce qu'il y a une mise en garde, on veut savoir.
Mais combien de faisants?
Pas assez.
Maybe a few words.
Je retourne l'année prochaine.
Maybe a few words on the report. You're saying
yes.
It's your personal life.
Is there a line here? Is this personal? Professional. You don't cross that line.
Are you going back to that country?
Yes, I'm looking forward to it.
Okay.
Donc, le ministre a participé à la partie de chasse au faisan.
C'est son jardin secret, la chasse, là.
Il est allé en hélicoptère.
On peut même plus le questionner là-dessus.
Hein, il était allé en hélicoptère. Il n'a rien payé. En tout cas... Je sais pas si.
OK, mais la ligne. OK, selon vous, là, la ligne personnelle et professionnelle, quand t'es ministre qui accorde des millions en subventions, la ligne se rétrécit à chaque qu'il fait, là, avec notre argent en passant.
Très rapidement, M. Fitzgibbon. Les autres participants, la partie de chasse, les invitants aussi, ont des liens d'affaires avec l'État québécois. En tout cas.
Philippe-Vincent, qu'est-ce que t'en penses, toi? Quel conseil t'aurais à donner à M.
Où sont les dents d'Ariane Mignolet, la commissaire à l'éthique? Elle avait montré les dents dans plusieurs dossiers, mais il me semble que là, c'est, à moins que j'ai fait une mauvaise lecture du rapport, je trouve que... coudonc.
C'est une question de... Tu sais, c'est pas aussi... on est rendu... C'est peut-être qu'on est rendu à un point où... on est capable d'accepter des choses qui, à une époque, n'auraient pas passé, mais que là, tu sais, mettons, à Ottawa, là, commissaire à l'éthique a dû rappeler que donner un contrat à un de ses amis sans appel d'offres, ce n'était pas éthique. Tu sais, il y a des ministres qui ont fait « Ah oui, on ne savait pas. »
Comment ils disent ça, les ministres?
On ne savait pas. Ben, en anglais, là. « Oh yeah, we didn't know. » Puis là, c'est comme...
Puis l'ancien commissaire était
totalement subjugué de voir ça en se disant, voyons, ça fait 17 ans que le code d'éthique existe et ces gens-là n'ont aucune idée de à quoi ça sert. Donc ça, c'est à Ottawa. Alors qu'à Québec, c'est vrai que la ligne est un peu plus floue. Parce que M. Fitzgibbon a le droit d'avoir des amis. Ces amis-là ont le droit d'être dans l'État. Mais, tu sais, M. Fitzgibbon, c'est qui? C'est comme si c'était pas écrit le code d'éthique pour ce genre de situation-là. Est-ce que ça fait en sorte qu'il y a des préoccupations éthiques? Oui, il doit y avoir des questions. On doit se les poser. Est-ce que la commissaire a tous les outils? Est-ce que le fait d'avoir un ami à qui on donne un contrat, qui siège aussi sur un conseil d'administration, qui... Est-ce que ça, c'est éthique? Est-ce que c'est au public de décider à la prochaine élection? Je pense qu'on a une réflexion peut-être un petit peu plus large à faire sur qu'est-ce que l'éthique. T'sais, moi, si je suis ministre, je suis avec mes amis, c'est mes amis, le week-end, puis la semaine, ça devient des gens avec qui je négocie. Ben, est-ce qu'il y a une ligne un peu particulière? Même s'ils m'ont jamais rien donné, même si c'est moi qui paye pour aller au restaurant, même si c'est... Mais c'est mes amis. Puis si c'est mes amis, puis ils ont des contrats... Mais qu'on s'assure que tout est fait correctement, c'est là où
c'est plus mes amis.
Je pense pas que ce soit blanc ou noir, là. C'est pas clair en ce moment.
En tout cas, je tiens à dire, là, je viens de dire qu'elle avait pas de dents, Ariane Mignolet, mais elle souligne quand même ça peut contribuer à créer une apparence de conflit d'intérêts. Tu sais, elle met des gants blancs. Puis elle dit que des mesures de prévention doivent être mises en place afin d'éviter cette espèce d'apparence-là. Il en va du maintien de la confiance, mais...
Il aurait pu écrire à la commissaire avant, puis de regarde, j'y vais avec des amis, qu'est-ce que vous en pensez? Y a-tu quelque chose qu'il faut que je fasse pour être sûr que ce soit correct? Puis c'est tout, là, tu sais, c'est... Mais ça fait partie du personnage, là, de son arrogance et ça.
Mais pourquoi, depuis tantôt, là, je vous écoute, là, puis tout ce que j'entends, c'est Zachary Richard, là, qui chantait ça.
C'est quoi?
C'est comme l'arbre est dans ses feuilles, puis là, les feuilles est dans... Tu sais, quand ils partent, là, puis là, à un moment donné, tu dis, t'as le ministre qui est à la chasse avec des gens qui font affaire avec le gouvernement. Il dit que c'est sa vie privée, mais il fait des chèques avec l'argent des contribuables. Puis là, il est quand même là, chez ces gens-là. Il vient pas chez nous, M. Fitzgibbon. Là. Moi, je l'ai invité plusieurs fois à venir manger un barbecue, puis il veut pas, ça l'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qui motive ses choix? Comment il choisit ses amis?
Ben, en c'est des amis de longue date.
Il y avait déjà, oui, il est déjà allé à la chasse au faisan, puis il dit qu'il va y retourner.
Ben, je sais bien, c'est pas le faisan qui m'intéresse, c'est ceux qui l'invitent. Le faisan, je m'en calisse, là, tu sais, qu'il a chassé du poulet ou de l'écureuil, je m'en fous. Moi, c'est qui l'invite, puis en retour de quoi? Juste pour son amitié, correct, mais je suis désolé, mais la ligne... lui, qui va la tracer, la ligne entre le personnel et le professionnel? M. Fitzgibbon lui-même?
Non, mais c'est comme Simon-Jolin Barrette avec la nomination de son ami comme juge. Là,
pareil.
Ça fait,
non,
on
c'est
nage
pas pareil.
Dans un...
C'est pas pareil parce que Simon-Jolin Barrette, il reçoit des noms d'un comité. Puis une des personnes les plus influentes sur ce comité-là, c'est son ennemi juré. C'est la patronne de la Cour du Québec. Là,
ouais,
la,
mais il fait des choix. Chef. Ils font des choix. Là.
Ils font des choix, mais... Mais imagine si ça arrive, ça m'a été confirmé que t'as juste un nom.
Non, mais ça se peut. Tout comme
si t'as juste un nom, puis tu vas seulement nommer un juge, puis bon, c'est ton ami. Est-ce
t'as
que
juste
ça peut
un nom comme Madonna, Sting, juste un nom dans ce sens-là?
Non.
Gasso.
Non, mais le comité devrait remettre. Excuse mon ambiguïté.
Ben oui.
Le comité devrait remettre entre c'est-à-dire jusqu'à trois noms. Et donc, si tu reçois
juste un nom... Mais il peut recommander une seule personne.
Mais trois noms,
il peut recommander une seule personne, mais je trouve que ça, c'est un peu insultant pour le ministre, qui devrait au moins pouvoir choisir entre...
Oui, sauf que ce que je voulais dire, la comparaison, c'était dans l'apparence, dans cette apparence-là de... Ben, si c'est son ami, pourquoi c'est lui qui,
en bout de ligne,
c'est bien
pire, là, il fait tous ses choix. C'est pas un comité qui a dit d'aller à la chasse, là.
Non, c'est lui, c'est ça.
C'est non, mais il y a le droit d'aller à la chasse.
Moi, je
comme Simon Jolin Barrette a le droit d'avoir des amis. T'sais, ultimement, c'est ça que je veux dire. Il y a le droit d'avoir des amis.
Comme
Pierre Fitzgibbon a le droit d'avoir des amis puis de faire ce qu'il veut avec ses amis. Ultimement, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ces amis-là sont aussi en lien avec l'État. Puis si ces amis-là, il n'y a pas de cadeau, parce qu'ultimement, c'est un cadeau ou c'est une activité qui était déjà faite, fait que ça ne consiste pas en un cadeau.
Et trois noms comme Philippe-Vincent Foisy?
Ça, c'est trois noms.
OK, j'arrête. Loi sur Airbnb, Mme Proulx est en maudit contre le Québec solidaire.
Ah oui, vraiment. Parce que, d'abord, elle veut que ça soit adopté rapidement. Pourquoi? Parce que c'est un deuxième tour de roue qu'on donne à Airbnb. Là, on va l'obliger à ce que chaque annonce ait un numéro de tourisme, là, un numéro de tourisme en bonne et due forme. Puis on oblige Airbnb à vérifier le numéro. Ce qui fâche Airbnb, ils sont pas venus en commission parlementaire, mais là, ils ont envoyé un rapport que j'ai pu regarder, que j'ai pu lire. Et eux autres, ils disent, on est fin, nous, Airbnb. Nous avons été la première plateforme à percevoir de manière volontaire la TVQ. Hey, sont-tu fins? Ils ont perçu la TVQ, Benoît? Oui.
Ben, ils sont fins, okay.
Et là, Caroline Proulx, elle veut que ça soit adopté, au plus ça craint. Mais Québec solidaire, probablement pour faire un gain politique, ils veulent, cet après-midi, déposer une assignation à comparaître à Airbnb parce qu'ils sont pas venus pour répondre aux questions sur leur mémoire. Je trouve ça intéressant. C'est déjà arrivé dans le passé. C'est un, tu sais, l'Assemblée nationale, c'est un peu comme un tribunal, là. Et c'est déjà arrivé dans le temps, je me souviens très bien, Pierre Paradis qui avait envoyé carrément un subpoena au directeur ou au PDG de la financière agricole qui voulait pas venir témoigner à l'Assemblée nationale. Il était obligé de venir. Donc, eux autres, ils veulent utiliser le même type de processus, de procédé pour forcer Airbnb à venir. Mais Mme Proulx a dit, on le sait ce qu'ils vont nous dire, ils vont nous faire perdre du temps, puis là, il faut adopter ça avant le début de la saison touristique. Puis là, pour ajouter en plus un autre grain de sable dans l'engrenage, en période de questions tout à l'heure, Étienne Grandbon de Québec solidaire a rajouté une autre couche. Il a dit, ben, tant puisqu'on est ici, puisqu'on a un projet de loi sur Airbnb, pourquoi pas mettre dans ce projet de loi l'interdiction d'évincer des locataires pour faire du Airbnb? Et là, Mme Proulx était outrée. Elle dit, mais non, elle dit, là, ça, c'est le code civil. Moi, je veux juste qu'on oblige Airbnb le plus rapidement possible à vérifier les numéros dans leurs annonces. Et bon, elle était bien fâchée. Je vais voir comment ça va se dérouler cet après-midi, cette idée d'assigner à comparaître Airbnb. Mais je trouve la querelle intéressante.
Philippe Vincent.
Québec solidaire est un peu sur tous les feux, hein, ces temps-ci, avec la santé aujourd'hui. Il a fait une pas pire sortie aussi contre Christian Dubé, avec son mur anti-privé. Et à chaque fois que je vois ça, là, puis je les entends comme ça, je me demande sincèrement où sont les libéraux. Ça me fascine chaque fois qu'on parle du gouvernement actuel, là, c'est la CAQ contre Québec solidaire sur presque tous les sujets. Puis quand je voyais ce sujet d'Antoine, je me suis dit...
Pas sûr de ça, moi, Philippe Vincent. Non, écoute, ce matin, les libéraux, André Fortin, était à l'attaque sur le projet de loi sur la santé, comme Québec solidaire. Québec solidaire a peut-être un positionnement plus clair, effectivement, parce que c'est le méchant privé. Mais moi, je trouve que pour ce qui est d'Airbnb, c'est intéressant, mais en même temps, c'est vrai qu'il faut que ça soit adopté au plus sacrant.
Non, je dis pas qu'ils font bien ou qu'ils font mal.
Est-ce qu'il
n'y
a pas un peu un manque d'expérience aussi
moment...
là-dedans, tu sais, d'avoir annoncé avant qu'on voulait ouvrir le front de l'interdiction des évictions pour faire du Airbnb? Il aurait pu ouvrir leur jeu avant, puis au moins qu'on adopte, qu'on resserre la vis à Airbnb.
Mais qu'ils font bien ou qu'ils font mal. Je fais juste dire qu'ils occupent beaucoup d'espace en ce moment grâce à ça.
Mais Marois Risky, au nom du Parti libéral, a pris position ce matin. Antoine?
Oui, sur l'école Bedford. Et on peut écouter sa question qui est, comme d'habitude, très percutante.
Il est allégué, et c'est très grave, là, que dans une école primaire, qu'il y a des lacunes graves de pédagogie, que des coups de règle sont donnés sur les bureaux. Pire, Madame la Présidente, que des services professionnels ont été refusés. Pourquoi? Parce que des hommes trouvent confrontant qu'une femme orthophoniste, orthopédagogue ou ergothérapeute rentre dans une classe. Moi, je veux savoir, il y a eu un rapport accablant de 27 pages qui a été préparé par une firme de relations de travail. Est-ce que le prédécesseur en éducation a eu ce rapport? Est-ce que l'actuel ministre a eu ce rapport? Est-ce qu'une enquêteur ou enquêtrice a été dépêché à l'école?
La réponse du ministre.
C'est ça. Alors,
c'est une méchante bonne histoire, cette affaire là, de l'école Bedford.
Vraiment. C'est Cogeco Nouvelles, c'est Valérie Leboeuf. Il faut donner le crédit. Mm-hmm. Ça s'intitule « Climat toxique dans une école primaire ». C'est troublant, effectivement. Il y aurait, il y aurait, je suis vraiment au conditionnel, monsieur le juge, là, il y aurait deux clans, musulmans pratiquants, musulmans non pratiquants et autres, qui s'affronteraient dans cette affaire-là, autour de la présence des orthopédagogues dont Marois Risky a parlé. Et le rapport ferait état de cette espèce de choc-là entre deux clans. Et pour l'instant, le centre de services scolaires dit que c'est faux, que c'est approximatif, mais le fameux rapport, on l'a pas. Là, et même, on s'est rendu compte par les réponses du ministre que lui-même l'avait pas demandé. Alors, Marois Risky a dit, comment ça, là? Ça fait une semaine là, que le reportage a été diffusé. Pourquoi le ministre de l'Éducation n'a toujours pas demandé une copie du rapport? Puis je vais te dire, il faut le demander pour parce que c'est intéressant. Et si c'est le cas, ben c'est troublant. C'est troublant parce que c'est dans une école publique que ça se passe.
Philippe Vincent.
Non, mais cette histoire-là, je suis content que ça rebondisse. Je me posais la question la semaine dernière, comment ça se fait que ça n'ait pas eu plus de tirants. Là. Comme on le dit, il y avait les salles de prière. C'est une autre histoire de Cogeco qui a fait grand bruit. Mais cette histoire-là d'une classe, d'une école contrôlée.
Mais c'est pas nouveau,
selon
hein? C'est pas nouveau.
Reportage.
Moi, c'est pas nouveau, là. Il y a des profs, des femmes profs, depuis longtemps, qui me disent qu'il y a des musulmans crinqués, là. Des crinqués qui veulent pas donner la main au prof, qui reconnaît pas l'autorité de la prof en classe, qui endure pas que la prof intervienne auprès de leurs chérubins, surtout leurs garçons. C'est pas d'aujourd'hui, là. Et ça, on les a pas mis au pas, là, les crinqués religieux. De toutes les religions, musulmanes incluses.
Non, mais la question, c'est y est où le ministre de l'Éducation là-dedans? Là?
Ben, depuis longtemps. Depuis longtemps, parce que les profs le disent depuis longtemps. Puis il y a des bonhommes qui vivent dans un autre siècle et qui tolèrent pas avoir une femme qui a une certaine autorité devant lui. Mais il est prêt à prendre ses pilules aux 4 heures puis d'arriver en 2023, 22, 21, 19. Ouais. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Là. Et là, Bernard Dréville, là, il sait. Il s'est intéressé à la Charte des valeurs, c'était ça? L'égalité homme-femme? Mais que Bernard Dréville, péquiste ou caquiste, qui ressorte, là.
Mais sur les lieux de prière, il a finalement pris position après avoir dit le contraire la veille ou l'avant-veille.
Ouais.
Et là, c'est contesté devant les tribunaux, mais c'était quand même une position claire et précise. Pas de lieu de prière, pas de lieu consacré à la prière dans nos écoles.
Ouais, faut arrêter.
Qu'est-ce qui est pire, des profs qui font endurer ça ou un lieu de prière?
C'est pas une question de ce qui est pire ou moins, c'est de niveler selon les règles et les valeurs qu'on a au Québec.
C'est ça.
Puis les hommes et les femmes, c'est égaux.
C'est ça.
Les garçons et les filles ont les mêmes droits. Puis si ça fait pas ton affaire, man, la 401 est juste là. Moi, j'endure plus ça, là. Moi, le discours religieux qui dénigre les femmes puis les filles, j'endure.
Hey, on me disait qu'au cégep Garneau, il y a un lieu de prière. En fait, il y en a deux, parce qu'il y a deux portes. Une porte pour les hommes, une porte pour les femmes.
C'est sûr.
C'est un cégep, là.
On tolère la ségrégation. C'est fou, là, au nom de la religion.
C'est incroyable. Ouais. Puis j'avais interviewé l'imam, dont j'oublie le nom, malheureusement, un imam qui réclame ces lieux de prière-là. Puis à un moment donné, je lui avais parlé de ça, l'égalité entre les hommes et les femmes qui était vraiment violée par cette idée-là. Là, il m'a dit, oui, mais c'est comme ça aussi dans la religion catholique, dans les religions chrétiennes, puis on l'accepte. Là, puis,
non.
Innocent, j'avais dit, oui, c'est vrai, mais là, pas à l'Église.
Pas en tout.
Pas à l'Église. Ma mère rentrait avec mon père, là. Pas la même
pas
porte,
à l'Église.
Je veux dire, quand on.
En général, on a rejeté la religion.
Ben oui.
Non, mais dans les lieux de religieux, c'est ça que je veux dire.
Ben
tu sais, puis.
Les femmes s'assoient avec les hommes pour aller à l'Église.
Ben oui.
Mais non. C'est ça. Fait que le Canada.
Celles qui portent un vêtement religieux, c'est des gens. Dans les religions chrétiennes, c'est des gens qui consacrent leur vie à la religion. C'est pas toutes les femmes dans toute la société. En tout cas,
on reviendra là-dessus demain. Merci
oui,
à vous
sûrement.
Deux.
Messieurs,
portez-vous bien.
Salut.